Bonjour à tous, bienvenue dans Stress 14 sur France Inter. Ravi de vous retrouver à la une aujourd'hui. Elle était la muse du cinéma italien des années 60. La magnifique actrice Monica Vitti nous quitte à l'âge de 90 ans. Retour sur son parcours et ses films dès le début de ce journal. Adieu masque en extérieur, jauge et retour au bureau. Plusieurs restrictions sanitaires anti-Covid tombent aujourd'hui. Malgré un contexte toujours tendu, nous serons dans un restaurant marseillais où le patron espère voir revenir les salariés du quartier. Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France aujourd'hui, il y confirmera entre autres cette bonne nouvelle. L'installation d'une nouvelle grande usine de batterie de voiture à Dunkerque, 1200 emplois directs à la clé. Dans ce journal, nous serons avec le PDG de la start-up Vercor à l'origine du projet. Un bilan très mitigé sur le logement, deux fois plus de SDF en 10 ans. APL Rognier manque de logements sociaux. La Fondation Abbé Pierre dresse un constat sévère. Reportage à suivre sur un fléau qui monte, la précarité énergétique.
Moi, c'est que du bonheur. J'y croyais pas jusqu'à la fin. Et quand j'ai vu les ouvriers arriver, je me suis dit, là c'est réel en fait. Et je me suis mise à pleurer.
Réponse à 13h30 de la ministre déléguée au logement, Emmanuel Wargon. Elle est notre invitée. Vos questions et témoignages, 01 45 24 7000. Dans le 13-14, encore les soupçons de délit d'initié dans le scandale Orpea. Feu orange pour le gaz et le nucléaire. Ils auront droit au financement européen en tant qu'énergie durable. Les méga-profits de Google, ils ont doublé l'an dernier. Et puis, on fera une séance de yoga au musée Guimet dans le vif de l'histoire de Jean Lebrun. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le cinéaste italien Michelangelo Antonioni trouvait, je cite, sa nuque très belle. Il en avait fait sa muse dans des films comme La Notée et L'Aventura. L'actrice italienne Monica Vitti est morte à l'âge de 90 ans. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour Marion.
On revient avec vous sur le parcours d'une étoile.
Oui, c'est une des grandes icônes de l'âge d'or du cinéma italien. Une beauté plutôt froide, une fascinante élégance. La carrière de Monica Vitti commence en 58, quand avec sa voix brumeuse, elle double celle de Dorian Gray pour le film Il Grido d'Antonioni, dont elle deviendra l'égérie et la femme pendant 10 ans. Elle va tourner avec lui dans L'Éclipse, La Nuit, Le Désert Rouge et L'Aventura en 60, où elle interprète le rôle de Claudia, une femme qui entretient une relation amoureuse avec le mari de sa meilleure amie.
Sandro, forse meglio se vai solo.
Ma scherzi.
No. Non credere che voglia risparmiarmi.
Monica Vitti travaillera également avec Joseph Losé dans Drame de la jalousie d'Ettore Scola aux côtés de Marcello Mastroianni, dans Moi la femme de Dino Risi et plus tard dans Le fantôme de la liberté de Louise Buñuel. Sa carrière va l'amener aussi à devenir une star du théâtre entre comédie et grands auteurs comme Molière, Ionesco, Shakespeare et Brecht. En 2011, son mari, le photographe réalisateur Roberto Russo, avait annoncé que Monica Vitti était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis déjà 15 ans. Mais on n'oubliera pas l'étoile Monica Vitti qui avait beaucoup brillé en 95 à Venise quand elle reçoit le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière.
Isabelle Pasquier du service culture de France Inter, merci à vous. Le cinéma, notre sélection à suivre, ça sera la chronique cinéma du mercredi et à la fin de ce journal. Nous sommes à l'heure du déjeuner. Peut-être même avez-vous déjà mangé et vous l'avez peut-être remarqué, quelque chose a changé. Première étape aujourd'hui de la levée des restrictions Covid. Les restaurants, tout d'un coup, semblent plus fréquentés. En effet, le télétravail n'est plus obligatoire. 3 jours par semaine, partout où c'est possible. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Marion.
Vous avez pu le constater dans un établissement marseillais, la brasserie La Joliette, une institution locale.
Oui, beaucoup sont venus déjeuner ici dans le quartier des affaires. La salle en bas est presque complète. En haut, ça se remplit progressivement. Pas de terrasse Mistral oblige. Au menu, saucisses marseillaises à l'anis ou gnocchi. Et des salariés heureux de retrouver leurs collègues plus souvent au bureau et au resto à midi.
Ça permet de redéjeuner avec les collègues, donc ça aussi c'est super. Moi je vais revenir au bureau quasiment tous les jours, je pense.
Je suis très satisfait de revenir au bureau, d'une part pour re-socialiser et d'autre part pour avoir tous ces échanges informels qu'on a avec nos collègues. Et on peut pas déjeuner, on peut pas avoir ces petits moments conviviaux. C'est vrai qu'à la plupart du temps chez soi, on est prépare notre travail, on mange devant l'écran, c'est pas terrible.
Bon là c'est mieux.
On fait des vraies pauses, ouais.
Qu'est-ce qui vous tente là dans la carte, dans le menu?
On vient d'arriver, donc pour l'instant on va boire un coup déjà. On va se prendre l'apéritif, comme il est de coutume, et puis après on verra bien.
Voilà, avec modération. Et le gérant de la brasserie, Philippe Pascal, depuis 8 ans, a rarement connu des mois de janvier aussi difficiles. 50 à 60% de chute de fréquentation. Il retrouve le sourire.
hors télétravail, nous sommes à 250, 300 couverts.
Et là, aujourd'hui, en ce moment ?
Aujourd'hui, nous tournons à 50, 60, 60 couverts. On passera la vague, mais les vagues, ils sont trop dures à passer. On va y laisser des plumes.
Donc les gens peuvent revenir au bureau, c'est le soulagement ?
Ben c'est un soulagement, oui et non, parce qu'après, il va falloir voir maintenant ces grosses sociétés qui vont débloquer les jours, si c'est un jour, deux jours à la maison, au lieu de trois ou quatre, mais qui nous laissent travailler. Parce que les gens et nous, on a besoin d'eux, et eux, ils ont besoin de nous.
Voilà, cette scène de déjeuner dans le quartier des affaires, un quartier enfin animé aujourd'hui. Certains salariés nous confirment qu'ils resteront tout de même entre un et deux jours à distance pour travailler, Marion.
En direct de Marseille pour France Inter, William Delesseux, merci à vous. Parmi les autres libertés retrouvées, celle de se promener le nez au vent. Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. La fin des jauges pour les grands rassemblements, les clubs de sport, les salles de spectacle. Nous devons rester vigilants, car la pression hospitalière reste élevée. Prévient toutefois le président de la République aujourd'hui dans la Voix du Nord. En effet, nombre d'entrées à l'hôpital et en réanimation de patients Covid en hausse sur une semaine. Et outre-mer, l'état d'urgence est décrété en Nouvelle-Calédonie, annonce à l'instant le porte-parole du gouvernement. Et dans ce contexte, malgré le desserrement des contraintes, comment préserver les plus fragiles ? Nouvel élément de réponse aujourd'hui. Les personnes immunodéprimées pourront recevoir gratuitement en pharmacie des masques FFP2 les plus protecteurs. La pandémie a sans doute accéléré le mouvement, c'est en tout cas un véritable tournant pour notre industrie et notre vie quotidienne. On a vendu l'an dernier autant de véhicules hybrides que de voitures diesel en Europe, 20% des parts de marché pour chaque type de véhicule. Les voitures toutes électriques poursuivent aussi leur progression. C'est dans ce contexte que le chef de l'État se rend aujourd'hui donc dans les Hauts-de-France. Bassin minier et Louvre-Lens au programme. Emmanuel Macron y confirmera à nouveau cette bonne nouvelle pour la ville de Dunkerque. L'installation d'une gigafactory de batteries électriques pour les automobiles. Construction dès l'an prochain. À la clé, 1200 emplois directs et 3000 indirects. Avec nous, le PDG et cofondateur de la start-up grenobloise Vercor à l'origine du projet. Bonjour Benoît Lemaignan.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi Dunkerque pour installer cette usine ?
Écoutez, quand on a lancé Vercor avec l'intention claire de densifier l'écosystème industriel et d'ouvrir une ou plusieurs gigafactories pour faire des batteries, les batteries c'est le pétrole de demain, et bien on a regardé de nombreux sites. Pour faire une gigafactory, il faut beaucoup d'espace, il faut également de l'énergie, il faut un terreau aussi industriel pour permettre l'implantation d'une usine de taille très importante. Donc on en a regardé 40 en France et à l'étranger, et puis on a resserré progressivement jusqu'à converger avec bien sûr nous, nos actionnaires, nos partenaires et tout le conseil d'administration de Vercor vers le site de Dunkerque qui cochait essentiellement pour des raisons bien sûr techniques toutes les cases nous permettant de déclencher ce projet qui va consister dans l'année qui vient à étudier bien sûr toutes les conditions administratives, réglementaires et financières pour lancer en 2023 la construction du site.
Alors pour expliquer ce succès industriel, hein, Emmanuel Macron met aussi en avant aujourd'hui dans la presse les réformes économiques menées par son gouvernement. Est-ce que ça a joué dans votre choix ?
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on le voit à travers le plan France Relance 2030 et les différents mécanismes de soutien qui sont apportés. Aujourd'hui, la compétitivité d'une usine comme ça en France et plus largement en Europe reste quelque chose qui est un défi par rapport à la compétition internationale où certains pays peuvent ne pas respecter les mêmes règles du jeu.
Vous avez un soutien financier ?
Oui, en particulier sur le plan financier, mais l'accompagnement de la France et l'accompagnement de l'Europe à travers les dispositifs divers et variés actuellement nous permettent d'espérer atteindre cette compétitivité et de lancer formellement l'investissement très prochainement.
Donc les réformes économiques ont joué ou pas ? J'ai pas bien compris, pardon.
Alors les réformes économiques, oui, jouent. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, ce qui joue d'abord, c'est l'attractivité de la France comme terroir d'investissement. Et c'est également les mécaniques, donc typiquement le plan France Relance, on peut appeler ça une réforme économique, ça contribue fortement à la compétitivité du projet.
Votre projet, ce sont des batteries à faible teneur en carbone et à haute performance. Ça veut dire quoi, faible teneur en carbone, c'est possible ?
Oui, l'enjeu de la production de batteries qui va être massive, hein, on va avoir plusieurs dizaines de gigafactories en Europe d'ici à 2030, c'est de réduire l'empreinte carbone de la fabrication. Et pour ça, il faut d'une part de l'énergie faiblement carbonée, donc c'est ce que permet la France, ça permet le site de Dunkerque. Il faut également des matériaux, parce qu'une batterie, ça nécessite des métaux, du lithium, du cobalt et du nickel, dont la chaîne de valeur soit très faiblement carbonée. Et c'est l'enjeu de la production que nous allons démarrer sur Dunkerque.
Donc l'idée, en fait, c'est de faire des batteries européennes relativement propres par rapport aux Chinois qui aujourd'hui sont leaders sur le marché ?
Exactement, avec une intention de diviser d'un facteur à minimum 5, voire 10, l'empreinte carbone, parce qu'il s'agit de ne pas remplacer finalement des véhicules au pétrole par des véhicules électriques si ça devait augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Donc notre engagement, il est bien celui-là.
Première batterie en 2025, c'est 100% sûr ?
Ah ben oui, c'est le calendrier dans lequel on est parti avec notre partenaire et client Renault pour permettre de livrer dans des véhicules et que les clients et nos concitoyens puissent rouler dans ces véhicules-là dès 2025.
Benoît Lemaignan, PDG et cofondateur de l'entreprise Vercor, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci à vous.
Sur le logement maintenant, le quinquennat Macron n'est pas à la hauteur. Ça c'est l'avis de la Fondation Abbé Pierre qui rend aujourd'hui son rapport annuel. Selon elle, 4 100 000 personnes souffrent aujourd'hui de mal logement chez nous. On compte entre autres 300 000 personnes sans domicile fixe, deux fois plus qu'il y a 10 ans. 2 200 000 personnes sont aussi en attente d'un logement social, constat cinglant auquel Emmanuel Macron lui-même a souhaité répondre dans une vidéo projetée ce matin lors de l'événement organisé par la Fondation Abbé Pierre pour la remise de ce rapport.
Pendant la crise, la nation n'a jamais autant investi dans l'hébergement d'urgence. On a investi plus de 2 milliards d'euros par an durant cette crise, avec 200 000 places qui ont été fournies. Comment on structure dans la durée ? D'abord, il y a le sujet de l'immigration. Et c'est vrai qu'une part très importante de l'hébergement d'urgence aujourd'hui, il est lié à la situation de l'immigration. Cette pression migratoire, elle pèse sur l'hébergement d'urgence. Et donc nous devons aussi, tout est lié, avoir une politique où on continue, et ça je l'ai toujours dit et nous l'avons toujours fait, l'accueil et le logement est inconditionnel, mais où on arrive à instruire plus vite les dossiers. Ça veut dire laisser des personnes dans des situations de fragilité beaucoup moins longtemps, et permettre soit de leur donner l'asile, et à ce moment-là, de pouvoir évoluer sur notre sol, d'accéder au travail dans la durée et à un meilleur statut et au logement, soit de les reconduire dans les pays d'origine s'il n'y a pas cet accueil. Est-ce qu'on a gagné cette bataille ? Non.
Parmi les constats du rapport, il y a aussi celui de la précarité énergétique. Elle est en hausse en France malgré les dispositifs comme MaPrimeRénov' et les aides fiscales à la rénovation. L'exécutif rappelle souvent que les aides peuvent atteindre 90% du montant des travaux nécessaires. Mais Claire Chaudière, si on en croit les associations, le reste à charge demeure généralement trop élevé.
Après avoir vécu des années dans une maison de plus en plus vétuste, très mal isolée, l'air s'infiltrant partout.
C'était catastrophique, quoi. Et on vivait dans le froid.
Carole, installée en bordure de route dans un village de l'Oise, a pu récemment faire réaliser de gros travaux de ceux qui changent la vie. Mais elle a longtemps cru que cela ne se ferait pas.
Donc le total des travaux, il y avait 39 000 en tout. Et il y avait toutes ces aides-là, en fait. Mais il me restait une grosse partie à charge.
Montant restant à débourser 12 000 euros, impensable avec moins de 1 000 euros de salaire.
Je ne pouvais pas faire ces travaux-là, c'est pas possible.
Ce sont des dispositifs associatifs exceptionnels qui ont finalement permis de compléter.
Moi, c'est que du bonheur. J'y croyais pas jusqu'à la fin. Il y a quand j'ai vu les ouvriers arriver, je me suis dit, là c'est réel en fait. Et je me suis mise à pleurer.
Dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre à Paris, ce type de dossier s'accumule.
Florine Siganos, responsable du secteur lutte contre l'habitat indigne.
Donc là, on a une famille de 3 personnes.
Isolation des comptes.
On est loin, dit-elle, des 10% de reste à charge pour les plus modestes, annoncés par la ministre du Logement.
Sur celui-ci, on est à 36,7%. On arrive plutôt autour de 30% pour les propriétaires occupants les plus défavorisés. Ils viennent nous chercher, c'est parce qu'ils ont déjà fait tout le tour des aides disponibles. C'est insurmontable, encore plus pour eux, vraiment.
Sans compter, poursuit cette responsable associative, qu'une partie d'entre eux a déjà des dettes, souvent énergétiques, et se trouve dans l'incapacité de faire un emprunt.
Passoire thermique, logement social en Berne, économie sur les APL, hébergement d'urgence. Pour répondre au rapport de la Fondation Abbé Pierre et à vos questions, la ministre déléguée au logement est l'invitée de France Inter à 13h30. Vos appels 01 45 24 7000. Allez, un autre sujet porté par plusieurs candidats dans la campagne électorale qui démarre, celui de la sécurité. Et cette question, quel candidat aura le vote des policiers ? Le syndicat Alliance Police organise en ce moment même son grand oral sur le sujet, devant 150 fonctionnaires venus de toute la France. Au cœur des préoccupations, la réponse pénale et la protection des policiers. Les invités ont assisté à la diffusion ce matin du film Bac Nord sur l'action de la police contre les trafics de drogue à Marseille. Maintenant, place aux politiques. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous suivez cet événement pour France Inter. Les candidats de gauche, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Christiane Taubira ont décliné. Jean-Luc Mélenchon n'était pas le bienvenu. Reste ce matin la candidate LR Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui sont attendus aussi.
Oui, et face à Alliance Syndicat Policier marqué à droite, c'est donc sans surprise à qui fera la plus belle déclaration d'amour. Première à monter sur scène, Valérie Pécresse, la candidate LR, qui pour se démarquer insiste sur son expérience de présidente de la région Île-de-France.
Moi, je ne fais pas que des déclarations. Moi, j'ai une particularité. Moi, j'ai donné des preuves d'amour. J'ai rénové vos commissariats. J'ai équipé les policiers. J'ai équipé les policiers. Je les ai protégés. Je leur ai donné la gratuité dans les transports pour qu'ils puissent circuler. Je leur ai donné les masques quand personne ne voulait leur en donner. Moi, je ne fais pas que dire. Moi, je fais, je prouve.
La candidate qui, dans son discours, cible le gouvernement et le jeu de ping-pong entre le ministre de la Justice, qu'elle juge trop laxiste, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, second à passer sur le grill, avec lui aussi des preuves d'amour.
Emmanuel Macron l'a fait, concrètement et discrètement, peut-être trop discrètement. 10 milliards d'augmentation de plus du budget en 5 ans du ministère de l'Intérieur. Alors le matériel ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Les effectifs en plus font pas le bonheur, mais ça y contribue quand même un petit peu.
Mais les preuves d'amour suffisent-elles? Nous sommes un peu dubitatifs, a répliqué le secrétaire général d'Alliance. Attendu maintenant Éric Zemmour, qui à défaut de bilan ou d'expérience, devrait multiplier lui aussi les promesses.
Élodie Forêt en direct du cinéma Le Club de l'Étoile à Paris avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Nouveau développement dans l'affaire Orpea, du nom de ce groupe de maisons de retraite soupçonné d'avoir privilégié son profit au prix de maltraiter ses résidents. Deux enquêtes sont déjà ouvertes, mais on apprend dans Le Canard Enchaîné qu'un scandale pourrait s'ajouter à l'autre. Selon l'hebdomadaire, l'ex-patron démis de ses fonctions, Yves Lemann, aurait vendu plus de 5000 actions de l'entreprise en juillet dernier, quelques semaines seulement après avoir appris l'existence du projet de livre Les Fossoyeurs. Du cynisme pur, martèle aujourd'hui la ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Bonjour Thomas Giraudeau.
Bonjour.
Délit d'initié ou non, c'est toute la question.
Oui, pour y répondre, il faut savoir si l'ex-directeur général Yves Lemann savait que Victor Castanet enquêtait sur Orpea, a-t-il reçu ou était mis au courant de ce courriel très détaillé. Plus de 50 questions très précises adressées à la direction du groupe par le journaliste. Le Canard Enchaîné affirme que oui, Yves Lemann savait et il a décidé un mois plus tard de vendre ses actions en pochant près de 600 000 euros. Tout cela avant que l'enquête du journaliste soit publiée et que le cours d'Orpea à la bourse s'effondre. Pour Éric Bernard, avocat spécialiste en droit des affaires chez Stering Legal, cela va dans le sens du délit d'initié.
C'est tout à fait susceptible d'être qualifié d'opération d'initié. Quand on a une information privilégiée en tant que dirigeant, on a une interdiction d'intervenir dans un sens ou l'autre sur le marché. On n'a pas le droit d'acheter ou vendre. On a une période de blocage tant que cette information n'a pas été rendue publique.
Oui, c'est l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui enquête et détermine s'il y a délit d'initié. Elle peut fouiller dans les échanges de courriels, les fadettes des dirigeants d'entreprise. On ne sait pas encore si elle va se saisir des révélations du Canard Enchaîné. Elle peut prononcer des amendes, mais si elle transmet ensuite le dossier au parquet, en vue de poursuite pénale, Yves Lemann risque jusqu'à 5 ans de prison.
Le nouveau patron d'Orpea, lui, doit être entendu cet après-midi par les députés à l'Assemblée nationale. C'est une situation très rare. Une cellule de gendarmerie condamnée par le tribunal administratif a cessé ses activités, je cite, de surveillance idéologique, dans un délai de 2 mois, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros. C'est la cellule Déméter, créée fin 2019 pour empêcher les actes crapuleux, type vol de gasoil et de tracteurs, mais aussi les actions symboliques et de dénigrement. Revers pour le gouvernement et soulagement pour les associations qui dénonçaient des intimidations et des atteintes à la liberté d'expression. Emmanuel Leclerc, le ministère prend acte de cette décision et va revoir la forme de cette mission.
Oui, les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture disent effectivement prendre acte de l'injonction adressée hier par le tribunal administratif de Paris qui exige la fin de certaines activités de la cellule Déméter pilotée par la gendarmerie nationale. En l'occurrence, il s'agit de mettre fin aux activités de prévention des actions de nature idéologique. Et c'est bien ce qu'avaient attaqué au départ plusieurs associations environnementales et antispécistes. Ces responsables et ces militants ont tous témoigné pour dénoncer des intimidations et, je cite, de graves atteintes à la liberté d'expression. Des associations qui réclamaient également l'annulation d'une convention de partenariat entre la gendarmerie et la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles. Mais sur ce point, elles ont été déboutées. Déméter revue et corrigée, mais pas supprimée, toujours selon les ministres. Déméter a prouvé son efficacité dans les enquêtes sur les vols en série dans les exploitations, ou pour interpeller par exemple les auteurs présumés d'un incendie volontaire d'un hangar agricole dans l'Ain.
Le gaz et le nucléaire sont bien des énergies vertes, en tout cas plus vertes que le charbon et le pétrole, et elles peuvent prétendre à ce titre aux millions de capitaux européens. C'est la conclusion à laquelle est arrivée la Commission européenne qui présente aujourd'hui son projet de ce qu'on appelle la taxonomie. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Notre correspondante à Bruxelles, gaz et nucléaire rentrent finalement dans les énergies dites de transition. De quoi décevoir les défenseurs de l'environnement ?
Oui, c'est donc un compromis qui a été trouvé. Il y a quelques mois, la France voulait que le nucléaire soit estampillé simplement vert, tandis que nombre de pays, dont l'Allemagne, ne voulait pas en entendre parler. Mais Berlin, qui en a besoin pour sa propre transition, voulait en revanche que le gaz y figure. Finalement, les deux énergies vont donc bien bénéficier de ce label européen qui ouvre la voie à des financements privés officiellement classés bons pour la planète, mais donc dans cette catégorie transitoire et avec une clause dite de transparence pour les investisseurs qui refuseraient que leur argent soit fléché vers ce type d'énergie. Deux ajustements qui ont vocation, nous dit la Commission, à surmonter les oppositions. C'est une victoire politique pour la France qui n'a pas ménagé sa peine pour faire monter à bord de sa croisade en faveur de l'atome une douzaine d'États membres. Victoire dont il faudra néanmoins mesurer l'effet réel sur les investissements futurs, car cette classification est assortie de normes techniques assez lourdes. Les centrales nucléaires, qui n'offrent pas assez de garanties, par exemple dans le recyclage des déchets, n'en bénéficieront pas, ce qui peut mettre la Pologne en difficulté. Idem pour les centrales à gaz, qui devront présenter des garanties en termes de pollution, mais par rapport au texte initial, l'Allemagne a tout de même obtenu l'allègement de certaines contraintes.
Et le texte, Angélique, suscite encore beaucoup d'opposition. Il doit être validé par le Conseil et le Parlement.
Oui, les États membres et le Parlement ont 6 mois maximum pour réagir. Il faut 20 pays pour s'y opposer au Conseil. Ça devrait être une formalité ici, malgré l'opposition farouche de certains États, comme l'Autriche ou le Luxembourg, qui menacent même d'un recours devant la justice. C'est plus incertain du côté du Parlement, où il suffit d'un vote à la majorité simple. Et vous l'avez dit, le groupe des Verts, soutenu par de nombreuses ONG, est vent debout. Pour eux, la classification en énergie de transition ne change pas grand-chose. Ils estiment que le signal envoyé aux investisseurs est dévastateur, car ils pourront continuer à flécher des fonds vers l'ancien monde, alors que les renouvelables en ont bien besoin.
En direct de Bruxelles, la correspondante de France Inter, Angélique Boin, merci à vous. Alerte cyclonique rouge à La Réunion, des vents jusqu'à 285 km/h sont attendus dès 16h, notamment sur les côtes nord de l'île. L'Ukraine, l'un des obstacles à l'entrée en campagne officielle d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas comme ça que le président de la République présente les choses dans son interview à La Voix du Nord aujourd'hui. Emmanuel Macron dit son enthousiasme pour la France, mais veut attendre que le pic épidémique Covid et la crise ukrainienne soient passés, crise qui semble alarmer au plus haut point le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Je ne vais pas vous cacher, la situation est très grave. Il y a des dizaines de milliers de soldats russes aux frontières de l'Ukraine. Il va y avoir dans les jours qui viennent des manœuvres militaires en Biélorussie avec les forces russes et les forces biélorusses aux frontières de l'Ukraine. Tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une intervention.
Un danger clair et imminent, dit Boris Johnson.
C'est un danger clair et imminent, mais à cette heure, nous n'avons aucune information sur la volonté du président Poutine de passer à l'action. Et donc, l'heure est toujours à prioriser la désescalade. C'est au président Poutine de dire s'il préfère la confrontation ou la négociation.
Jean-Yves Le Drian sur France 2 ce matin. À l'étranger, encore 76 milliards de dollars de profit l'an dernier, comme ses collègues des GAFAM. Le géant Google affiche d'énormes profits. Profits records même, bénéfices doublés en un an. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Comment expliquer ce succès ?
Eh bien, si le grand public connaît Google surtout pour son moteur de recherche, ses applications et éventuellement ses appareils connectés, la première source de bénéfices de l'entreprise, c'est la vente d'espaces publicitaires en ligne avec des publicités placées notamment en tête des résultats de recherche ou autour des vidéos YouTube. Tout cela a rapporté à la plateforme plus de 61 milliards de dollars en chiffre d'affaires rien qu'au dernier trimestre de 2021. Google a profité largement du confinement et de ses conséquences, télétravail, hausse du e-commerce. Les annonceurs se sont encore plus tourné vers la pub en ligne. Et la période des fêtes a également été très propice. Le reste des bénéfices de l'entreprise est porté par ses services d'hébergement dans le cloud qui ont augmenté de 80% en 2021, mais aussi par les ventes records du téléphone estampillé Google, le Pixel. Résultat, le cours de l'action Google a bondi de 9% après la publication des résultats. Le patron de l'entreprise en a profité pour rappeler son inquiétude face aux projets de loi américains qui veulent freiner le monopole des géants d'Internet.
Tout le détail sur notre site franceinter.fr. À Pékin, compte à rebours enclenché pour les Jeux Olympiques. Le relais de la flamme a démarré aujourd'hui pour 3 jours, puisque la cérémonie d'ouverture a lieu vendredi. Les 1000 porteurs de la torche qui vont se succéder passeront entre autres par la Grande Muraille et le Palais d'été. La presse est déjà sur place, et notamment les envoyés spéciaux de France Inter. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Marion.
En direct donc de la capitale chinoise, les autorités ont opté pour une politique zéro Covid très stricte pour que les compétitions puissent se tenir. Vous avez donc fait votre entrée dans une bulle sanitaire.
Enfin oui. Alors c'est vrai qu'on connaissait les règles par avance, mais vivre tout ça, c'est une expérience
assez sidérante et elle démarre à l'aéroport de Pékin, aéroport complètement vide. Et là, des dizaines de bénévoles vous accueillent en combinaison intégrale comme des cosmonautes. Ensuite, nous montons dans des bus dont on désinfecte les roues, oui. Et 4 heures plus tard, à notre arrivée à l'hôtel ici à Zhangjiakou, à 200 km de Pékin, nos bagages subissent le même sort, aspergés aussi de produits désinfectants, tout comme les sols de notre hôtel, d'où cette odeur permanente de chlore qui vous prend au nez par moment. Alors, comme sur tous les JO, vous savez, il y a un système de navettes organisé pour les journalistes qui se rendent sur les sites, et parfois, vous n'avez que quelques centaines de mètres à parcourir à pied pour les rejoindre, mais pour éviter tout contact avec l'extérieur, vous devez quand même prendre le bus, vous l'avez compris, l'ambition de Pékin est de tout cloisonner pour les 60 000 personnes, athlètes, journalistes, bénévoles, qui vont vivre dans cette bulle pendant 3 semaines.
Et évidemment, les sportifs aussi, hein, Jérôme, subissent ce traitement.
Oui, exactement. Et on signale déjà plus d'une centaine de cas positifs, dont un premier dans le camp français, Sébastien Lepape, qui pratique le short track, le patinage de vitesse. Il a été isolé 3 jours, tout comme son entraîneur. Leurs tests sont maintenant négatifs, mais c'est une préparation compliquée avant le début des épreuves samedi. Au total, il y a eu 7 cas dans la délégation française et ça tourne vraiment à la hantise pour les athlètes, car à partir d'aujourd'hui, être positif, eh bien, c'est la fin du rêve olympique pour lequel ils se sont préparés depuis 4 ans.
Jérôme Val, en direct de Pékin pour France Inter avec Sandrine Malon. En ce moment, première compétition, c'est le curling. Allez, votre chronique du mercredi avec Madame Cinéma de France Inter. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Aujourd'hui, une histoire d'amour, un ovni et un coup de griffe aux réseaux sociaux. Arthur Rambaud de Laurent Cantet, inspiré de l'histoire vraie de Mehdi Meklat du duo Les Kids, qui était sur France Inter, tombé en disgrâce après la découverte de tweets homophobes et antisémites ressurgis du passé. Le film ravive les questionnements autour de sa personnalité.
Et oui, comment un jeune homme aussi brillant a-t-il pu écrire de telles horreurs ? Laurent Cantet s'est longtemps posé la question, mais ne comptez pas sur lui, Marion, pour décider si le jeune Karim de son film est une victime ou un salaud, passé du statut de jeune premier à l'écriture tranchante, à celui de paria infréquentable après la publication d'audio messages sous le pseudonyme ici d'Arthur Rambaud. Cette question-là, il nous la laisse, en nous baladant entre le rejet, l'empathie pour ce personnage en effet très ressemblant, et dont on suit le parcours sur 2 jours, à travers lequel Laurent Cantet veut dénoncer surtout l'importance qu'ont pris aujourd'hui les réseaux sociaux dans le débat public, ces punchlines assassines, homophobes, racistes, antisémites, proférés pour faire du buzz, perçus souvent comme pas grand-chose par leurs auteurs.
Au cinéma également, Corinne, Les Jeunes Amants de Karine Tardieu avec Fanny Ardant et Melville Poupeau.
Une histoire d'amour comme on en voit peu au cinéma, une architecte à la retraite, un jeune médecin qui vont vivre dans le film une grande passion, malgré les préjugés, malgré les années qui les séparent, elle a 70 ans, lui 45. C'est une rencontre presque hors du temps, à la fois magnifique dans son message, et filmé de manière très délicate avec Fanny Ardant dans le rôle entre guillemets de la vieille dame. C'est comme ça que plusieurs des personnages du film la définissent, eh bien, toujours sublime et flamboyante.
Et enfin, c'est un ovni d'animation qui se regarde de préférence entre adultes. Les voisins de mes voisins sont mes voisins.
Voilà, une histoire un peu loufoque, pas mal de gros mots aussi autour des habitants d'un immeuble que l'on va découvrir ici confronté à mille et une péripéties. Un randonneur coincé dans l'ascenseur, un ogre édenté à la veille du plus gros festin de l'année, ou alors un magicien un maladroit qui égare les jambes de son assistante dans un numéro de La Femme coupée en deux. Il y a presque un petit côté épisode de striptease hein, dans la vie de ces personnages ou en couleur, dessinés au crayon de papier dans un esprit très bric-à-brac. Anne-Laure Daffis et Léo Marchand qui réalisent le film ont une formation en art plastique et ça se voit hein, dans le traitement graphique, dans le mélange des genres. Il y a du dessin, du collage, des images d'archives issues de la télévision, des maquettes. Tout ça dans une mise en scène hyper rythmée. C'est souvent drôle et ça ne ressemble à rien d'autre.
La sélection de Corinne Pellissier pour France Inter. Merci à vous. Dans un instant, le quinquennat Macron est-il à la hauteur sur le logement ? La ministre déléguée au logement est avec nous. On attend vos appels 01 45 24 7000. Ça sera juste après la météo.
Je suis le docteur Seldman. J'ai découvert dans les textes sacrés que la bonne santé, ça se soigne. Il suffit de quelques minutes par jour pour changer la vie. Perdre du poids sans se serrer la ceinture, faire un jeûne séquentiel qui marche, découvrir l'orgasme sec qui amène le couple à l'extase. Tout est possible. Faites de votre santé un succès. La santé devant soi, mon nouveau livre chez Robert Laffont.
Le temps de votre mercredi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Jean-Pierre Hameau, un classique, hein, ensoleillé dans le sud, nuageux ailleurs.
Oui Marion, le soleil se plaît bien dans le sud, il va briller généreusement cet après-midi entre les Pyrénées et son Piémont, mais aussi près du Golfe du Lion, jusque vers la région PACA, sans oublier la Corse. En contrepartie, un Mistral et Tramontane vont souffler en rafale jusqu'à 90 km/h. En revanche, vous allez retrouver une bonne couverture nuageuse entre le Massif Central et la région Grand Est, en passant par la région Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Le tout agrémenté de petites pluies passagères. Puis partout ailleurs, l'ambiance restera souvent nuageuse. Ces nuages laisseront parfois une petite place aux éclaircies.
Et température de 9 à 20 degrés. Merci Jean-Pierre Hameau de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
C'était à l'été 2017. Emmanuel Macron, tout récemment élu président de la République, parlait logement, ce qui n'est pas si fréquent. Emmanuel Macron.
La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi.
Quelques semaines plus tard, il est encore question de logement, le premier poste de dépense des Français. En septembre 2017, le gouvernement présente son plan censé créer un choc de l'offre, incitation fiscale sur les ventes de terrain, prêt à taux zéro reconduit, nouveau bail sans dépôt de garantie pour les étudiants, un quinquennat plus tard. Où en est-on sur le sujet? Le rapport de la Fondation Abbé Pierre dresse aujourd'hui un constat sévère, quinquennat pas à la hauteur, le logement n'a jamais été une priorité, disent-ils. Pour répondre à ces critiques, la ministre déléguée au logement est avec nous sur France Inter. Bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour.
Vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Sur la question des SDF évoquée par le président de la République dans l'extrait qu'on a entendu, la Fondation Abbé Pierre compte deux fois plus de sans-abri aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est un échec?
Vous savez, on a fait un effort sans précédent dans ce quinquennat en ouvrant 200 000 places pour les personnes qui sont sans domicile. Et quand la Fondation Abbé Pierre compte le nombre de personnes sans domicile, elle compte à la fois celles qui sont dans des solutions d'hébergement et celles qui sont vraiment à la rue. Et pour l'hébergement, on héberge entre l'hébergement classique et l'hébergement des demandeurs d'asile presque 300 000 personnes chaque nuit. Il reste des personnes à la rue. D'ailleurs, l'INSEE va faire un recensement cette année qui nous permettra de savoir où on en est. Il en reste probablement autour de 10 000, c'est l'ordre de grandeur. Mais nous avons eu une nuit de la solidarité à Paris, il y a quelques jours, qui constate une baisse pour la deuxième année consécutive. Donc c'est encourageant, ça prouve qu'on va dans la bonne direction.
Cela dit, le budget va, un tiers du budget utilisé va à des nuits d'hôtel et pas à une entrée dans le logement pérenne, ce qui était l'objectif de votre gouvernement.
Alors, vous avez raison, l'important c'est l'entrée dans le vrai logement, parce que être dans une structure d'hébergement, c'est pas une solution qui peut durer longtemps. Nous avons lancé une grande démarche qui s'appelle Logement d'abord, et nous comptons le nombre de personnes qui sont sorties de la rue ou d'hébergement vers le logement. On en compte 330 000 depuis début 2018. Après, on a fait quelque chose que nous n'avions jamais fait jusqu'à présent, rendre les places d'hébergement pérennes, les financer vraiment. Et en faisant ça, on va pouvoir enfin transformer des nuits d'hôtel, qui ne sont pas une bonne réponse, vers des structures du type résidence sociale ou pension de famille, qui sont beaucoup plus adaptées. Nous avons commencé à 5000 places de pension de famille récemment et on va pouvoir accélérer.
Alors vous avez peut-être entendu le président de la République ce matin qui était devant les représentants de la Fondation Abbé Pierre et qui a défendu également son bilan en la matière. Il dit, lui, Emmanuel Macron, que l'hébergement est un problème migratoire. Vous êtes d'accord ?
En fait, l'hébergement, c'est d'abord la dignité de la France, c'est l'accueil inconditionnel. Une personne qui est à la rue, un homme, une femme, une famille avec des enfants, on va proposer un toit et un repas chaud, et c'est normal, c'est la dignité humaine. Après, nous avons dans nos structures d'hébergement des Français ou des personnes en situation régulière qu'il faut pouvoir faire accéder au logement le plus vite possible. On a des demandeurs d'asile qui attendent que leur dossier soit traité. Et puis, on a des personnes dans des situations intermédiaires qui demandent une régularisation.
Mais dans quelle proportion ?
C'est un mélange de toutes ces personnes-là. J'ai pas de proportion précise, mais c'est un mélange de toutes ces situations qu'on trouve dans l'hébergement d'urgence. Et on ne trie pas, et heureusement, bien sûr, on tend la main à chaque personne dans la détresse.
D'après la Fondation Abbé Pierre, c'est Bercy et le ministère de l'Intérieur qui ont gagné la bataille, je cite, son directeur des études, le ministère du Logement fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas beaucoup. Est-ce que c'est votre sentiment aussi?
Alors, je prends le ministère du Logement fait ce qu'il peut. Moi, je me bats tous les jours avec mes collègues. C'est un travail interministériel. Le gouvernement, le Premier ministre, le Président ont choisi d'investir non seulement dans l'hébergement, mais aussi dans la rénovation énergétique des logements. C'est très, très important. On a mis 2 milliards cette année sur MaPrimeRénov' et sur les aides à la construction. Et la construction repart. On aura construit plus de logements dans ce quinquennat que dans le quinquennat précédent, malgré la crise Covid. Donc, c'est bien un effort de tout le gouvernement.
Mais vous représentez quand même 15 milliards d'économies sur le quinquennat, le poste du logement.
En fait, on peut compter d'un côté des économies. La Fondation Abbé Pierre ne compte pas l'argent que nous avons remis sur l'hébergement d'urgence. Il ne compte pas l'argent que nous avons mis sur la rénovation énergétique. Il ne compte pas la nouvelle aide aux collectivités pour soutenir le logement social. Donc non, on n'a pas fait 15 milliards d'économies quand on compte tout.
Il salue quand même vos efforts en matière énergétique, mais on en reparlera. Voilà. On en reparlera peut-être. Philippe nous appelle.
Oui, MaPrimeRénov', on va atteindre 1 million de dossiers. C'est du jamais vu.
Philippe nous appelle au standard de France Inter.
Oui. Bonjour.
Bonjour Philippe, vous aviez une question pour la ministre.
Oui, bonjour Madame la ministre, merci de me prendre à l'antenne. Oui, alors moi je suis propriétaire d'un appartement à Paris et je m'étais dit je voulais louer solidaire. Et je regardais le dispositif, il me paraissait correspondre à mes besoins, enfin à mon attente. Donc c'était louer à des gens qui étaient en attente de logement, en droit au logement, via une association, ça me convenait. Et les conditions fiscales m'étaient favorables. En plus, donc je n'y perdais pas trop, c'était correct. Donc j'avais droit à une réduction d'impôt, un loyer qui était à 85% de mon loyer, du loyer médian de référence. Je me suis dit, bon, c'est bon, et en plus, j'y perds. Et voilà, on me dit, ah, mais vous avez jusque fin février, parce qu'au mois de mars, il y a le dispositif COS, et là, tout change. Vous avez, votre loyer s'est plafonné, il faut une réduction à 65%. Vous aurez un loyer qui sera plafonné à 65% et une réduction qui sera à 45%, une réduction d'impôt et non plus une déduction. Bon.
C'est un peu compliqué, Philippe. Ce qu'on a compris, c'est que les règles changeaient.
Et moi, je peux pas. Voilà, je peux pas suivre. Je peux pas faire cet effort-là. Donc c'est dommage.
Alors la réponse de la ministre Emmanuelle Wargon, effectivement, les règles vont changer sur la location sociale à loyer modéré.
Absolument. D'abord, Philippe, je voudrais vous remercier et vous dire que c'est un geste citoyen de vouloir louer moins cher à des ménages qui en ont vraiment besoin. Donc bravo et merci, on a besoin de gens comme vous. Ensuite, oui, on change les règles pour les rendre plus favorables. Donc il faut qu'on vous explique ça probablement hors antenne. Les règles changent bien en 2022, mais elles seront meilleures. Ça sera une réduction d'impôts, ce qui est une bonne nouvelle. Ça marche aussi avec une décote de 15% du loyer. Il y a 3 décotes possibles, 15% ou 25% ou 45%. Et c'est plus favorable dans tous les cas. Donc, moi, je veux bien qu'on regarde avec vous le passage aux nouvelles règles, mais je vous assure que ça sera très favorable parce que c'est l'objectif, louer solidaire, et que ça rapporte quand même aux propriétaires.
Emmanuelle Wargon, malgré tout, on manque encore de logements sociaux. 2 200 000 personnes en attente. Et on a vu que le nombre de logements autorisés a baissé pendant tout le quinquennat, sauf l'an dernier.
Alors, on a besoin de logements abordables, que ce soit des logements privés et vraiment les propriétaires qui vont louer moins cher, c'est important, ou bien sûr les logements sociaux. Alors, les logements sociaux, on a enfin un rebond, on a plus 8% cette année par rapport à l'année dernière. Ça reste insuffisant. On a du mal à convaincre les grandes villes et les métropoles d'y aller. Mais là, on a une belle victoire politique puisqu'on rend la loi SRU, celle qui oblige les villes à construire des logements sociaux permanentes. Ça vient d'être voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette loi s'arrêtait en 2025. Là, elle devient permanente. Et donc, cette obligation, elle va nous permettre de continuer aussi à produire du logement social. On a aussi beaucoup aidé les collectivités. On a reconstitué les fonds propres des bailleurs sociaux. Donc, je pense que l'équation est maintenant mieux partie. C'est vrai qu'il en manque, on voulait en faire 120 000 l'année dernière, on en a fait 105 000. Là, notre objectif pour 2022, c'est 125.
Encore faut-il arriver à la faire respecter, cette loi SRU.
Eh bien oui, mais vous savez, pendant tout ce quinquennat, nous avons donné des consignes de fermeté aux préfets. Après, il y a des maires qui ont aussi des difficultés, et c'est pour ça qu'on améliore la loi SRU en permettant une meilleure contractualisation, en donnant de nouvelles aides aux maires qui accueillent de la construction. Parce qu'effectivement, on en a besoin. La loi SRU, c'est la moitié de la production du logement social en France.
Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition ?
C'est le logement des classes moyennes.
Qu'est-ce que vous pensez de la proposition, Emmanuel Wargon, de Yannick Jadot, qui voudrait instaurer 30% de logements sociaux ?
Mais moi, ce que j'en pense, c'est que dans les métropoles qui sont actuellement gérées par les Verts, Europe Écologie Les Verts, je pense à Strasbourg ou à Grenoble, on a parmi les taux les plus bas d'agrément de logements sociaux en 2021. Donc moi, j'aimerais beaucoup que ces métropoles, elles commencent par faire du logement social chez elles, avant qu'on augmente les taux.
Un autre point noir qui est pointé par la Fondation Abbé Pierre, c'est la réforme des aides au logement, les APL qui avaient été réduites de 5 euros dès 2018, et puis indexées sur les revenus récents, ce qui fait quand même un certain nombre de perdants. On ne reprendrait pas cette mesure de réduction des APL, vous dites aujourd'hui. Est-ce que vous iriez jusqu'à revenir dessus ?
Je pense qu'effectivement, on ne reprendrait pas cette mesure aujourd'hui. Pour la suite, l'étape d'après, c'est de retravailler toutes les prestations sociales, les APL, la prime d'activité, toutes les aides aux ménages modestes et aux classes moyennes. On a des aides qui sont encore insuffisamment simples, insuffisamment justes, parfois avec du non-recours. C'est un projet qui s'appelle le revenu universel d'activité. L'idée, c'est vraiment de soutenir l'activité, de permettre à chacun de bien vivre. Et dans cette réforme, bien sûr que je pense qu'il faudra qu'on revoie le sujet APL.
Alors sur la question de la précarité énergétique qui est également pointée par le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on a une question de David au Standard de France Inter. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Vous aviez une question pour Emmanuel Wargon.
Oui, concernant la prime Rénov' en fait. Depuis juillet, nous sommes en attente du versement d'une prime de 1000 euros. Il semblerait qu'on nous sommes pas les seuls, puisqu'il y a un groupe Facebook qui a plus de 17 000 personnes qui sont inscrites et où c'est le parcours du combattant, ma prime Rénov', le parcours du combattant. Et malgré multiples relances tous les mois par mail, par téléphone, la prime ne vient pas et voilà. Donc c'est un peu problématique. Hein. Donc nous c'est que 1000 euros, mais il y a des gens qui doivent faire des prêts pour payer les travaux qu'ils ont. Qui ont enclenché.
Merci David. Je signale qu'au Standard, d'autres auditeurs témoignent de ce même genre de péripétie. On a également, sur le sujet de ma prime Rénov', la question de Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Vous avez également une question sur ma prime Rénov'?
Oui, enfin j'ai un témoignage. Moi je suis maître d'œuvre, donc j'accompagne les particuliers dans la rénovation de leur logement et souvent donc la rénovation thermique. J'ai actuellement un client qui gagne qui a un revenu de référence de 21 000 euros. Il dépasse donc de 1500 euros le plafond pour obtenir des aides pour la réalisation de ses travaux. Il a par ailleurs pas de bol, il n'est pas dans la bonne banque, c'est-à-dire la Société Générale qui ne fait plus de prêts à taux zéro pour la rénovation énergétique. En tous les cas, c'est ce qu'ils lui disent. Et donc cette personne, pour un dépassement de 1500 euros de revenus de référence, a droit sur 12 000 euros de travaux à 80 euros très exactement d'aide. Et donc cette personne ne va pas engager des travaux pour lutter contre sa précarité énergétique. Et je trouve que la progressivité des plafonds serait vraiment un impératif pour que ma prime Rénov' fonctionne. C'est pas normal qu'une personne qui gagne 21 000 euros par an ne puisse pas faire de travaux et ne puisse pas avoir d'aide.
Merci Corinne. Alors Emmanuel Wargon, sur les questions de David et Corinne, est-ce que ma prime Rénov' est trop difficile à toucher ? Est-ce que parfois il y a des ratés aussi ?
Alors, ma prime Rénov', c'est exactement cette année 660 000 dossiers validés, 350 000 dossiers payés. L'écart étant bien sûr qu'entre le moment où on valide et le moment où on paye, il faut faire les travaux. Sur les dossiers payés, on a eu des difficultés en fin d'année. Pas 17 000 dossiers. 17 000, c'est le nombre de personnes qui sont sur un groupe Facebook, mais c'est des gens qui discutent. Nous avons identifié environ 3 000 dossiers en grande difficulté, qui sont des dossiers pour lesquels, pour des raisons qui sont probablement de notre côté, on a eu de gros retards de paiement. On est en train de finir de résorber ça. Donc, on va prendre les coordonnées de David hors antenne pour être sûr, et de tous vos animateurs, évidemment, qui se manifesteront, pour être sûr qu'on va bien traiter son dossier. Mais pour moi, il en reste encore peut-être quelques centaines. Après, il y a toujours un petit délai entre le moment où on demande le paiement et le moment où on l'a. Notre engagement, c'est 15 jours en moyenne. On y est à peu près, mais en moyenne, ça veut dire qu'il y a des dossiers plus rapides et des dossiers moins rapides. Mais en tout cas, il faut quand même se souvenir, on a payé 350 000 foyers cette année. Hein. 350 000 ménages ont bien reçu MaPrimeRénov'.
Emmanuel Wargon, je vous presse un peu parce que je voudrais quand même vous passer au chapitre un peu politique. Je voulais vous demander...
Alors, juste pour la deuxième question, oui, on peut toujours améliorer la progressivité. Donc ça, évidemment, c'est des choix. Le choix, c'est d'aider plus ceux qui en ont le plus besoin. Dès qu'on met un effet de seuil, forcément, ça crée ce genre de choses. Il y a aussi les certificats d'économie d'énergie qui baissent les aides.
Emmanuel Wargon, souhaitez-vous voir le président Emmanuel Macron, qui est en déplacement dans le Nord aujourd'hui, se représenter, se déclarer candidat ?
Bien sûr, moi je soutiens la candidature prochaine du président de la République. Je suis d'ailleurs moi-même dans le Pas-de-Calais, je vais l'accueillir dans le bassin minier. Et il s'est exprimé ce matin, sa candidature viendra au bon moment.
Vous comprenez les critiques, y compris au sein de votre propre majorité, hein, d'après notre service politique sur France Inter, sur le fait qu'il tarde un peu trop ?
Écoutez, les Français attendent un gouvernement à la tâche pour travailler sur les dossiers qui sont importants pour eux. Clairement, le logement, c'est important pour eux. Un gouvernement mobilisé sur la crise sanitaire. Un gouvernement et un président, à chaque fois, mobilisés aussi sur la situation internationale. On a la présidence française de l'Union européenne. Donc, je crois que ce que les Français attendent, c'est du concret, des résultats, une capacité à nous sortir collectivement de la crise sanitaire.
Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci à vous. Bonne journée.
France Inter, le 13-14.
13h45 à suivre sur Inter, suite de notre feuilleton avec les petits as du tennis. Aujourd'hui, quand les parents deviennent les coachs des petits champions. Un peu plus tard, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Chronique très spirituelle aujourd'hui.
Le yoga qui relevait de la spiritualité avant de relever de la performance. Une exposition au musée Guimet.
Rendez-vous avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
L'une s'appelle Camille, elle a 22 ans, l'autre s'appelle Julie, elle a 24 ans. Ce sont les sœurs Berthollet, violonistes et violoncellistes. Leur nouveau disque cartonne et elles sont à votre micro, Frédéric, le temps d'une chanson.
Ce dernier album a pour titre Série, des reprises classiques de génériques de série, avec en prime quelques génériques de films. C'est franchement réussi. Et c'est d'une chanteuse qui cartonne, elle aussi, et depuis des années qu'elles ont choisi de me parler, Céline Dion.
Céline Dion, on l'a découverte grâce à nos parents, je pense, tout simplement, parce que des albums de chansons françaises, il y en a beaucoup dans notre maison où on a grandi. Et parmi toutes les deux, je pense que j'ai peut-être été la première à flasher sur ces chansons, d'abord en français, autant les textes que la musique et sa voix, qui est toujours tellement bien contrôlée, mais avec une émotion incroyable. Et j'ai lu des livres sur Céline Dion, j'aime bien me plonger dans la vie.
Puis on est allé
au
concert ensemble aussi, on est allé la voir, je crois que c'était à Bercy. On avait réussi à obtenir deux places. Et là j'ai commencé aussi à m'y intéresser presque autant que Camille. Et puis à écouter la façon dont sa voix a évolué dans le temps et comment elle a réussi à conserver une technique aussi pure. Ça m'impressionne beaucoup parce qu'elle arrive à monter, à tenir des notes ultra haute et elle ne les rate jamais. C'est ça qui est incroyable. On peut regarder toutes ses performances sur YouTube. Ouais, les notes hautes, super difficiles.
Et ça, c'est
toujours bien.
C'est rare. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home.
Cette chanson, Frédéric, c'est donc All by Myself.
Un titre écrit par le chanteur Eric Carmen et il l'a sorti en 1975, 20 ans avant que Céline Dion ne le reprenne pour en faire un nouveau tube.
On a choisi All by Myself parce que c'est vraiment la chanson qui fait le pont entre la musique classique et puis la chanson, parce qu'elle est totalement inspirée du deuxième mouvement du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, avec les mêmes harmonies, les mêmes mélodies aussi. Et ce qui fait que les gens qui aiment le concerto de Rachmaninoff vont pouvoir aimer All By Myself de Céline. Et les gens qui aiment la chanson pourront ensuite se diriger vers le concerto et puis avoir...
Ou même le connaître sans savoir que c'est du Rachmaninoff. Et ça, c'est magnifique.
Et les harmonies sont super belles, c'est les harmonies de la fin du romantisme. Et ça fonctionne avec une chanson qui est plus pop. Ça, c'est vraiment du génie de composition, je trouve.
Ça peut faire petit concerto.
Mais ça fait totalement ça, vu que c'est inspiré d'un concerto. Il y a la progression harmonique.
Il y a la forme.
Il y a la forme, il y a une partie qui est vraiment instrumentale. Il y a la voix soliste qui est vraiment mise en valeur, qui fait le côté concerto un peu pour voix.
Et la chanson est tellement agréable à entendre parce qu'elle a vraiment une progression tout au long et jusqu'à arriver au point culminant. Exactement. Donc autant au niveau des notes que du point de vue harmonique, tout simplement, la chanson, elle nous touche énormément.
Vous l'avez rencontrée?
Oui, on l'a rencontré une fois.
On a eu la chance de
Paris.
La rencontrer et ça, c'était un grand moment.
On était comme des petites filles.
Oui.
On a fait une photo, on l'a gardée bien précieusement
et c'est un moment qu'on garde dans
notre cœur. On a rencontré une grande dame.
Céline Dion, All By Myself, c'était donc Frédéric, le choix des sœurs Berthollet.
Camille et Julie Berthollet qui seront en concert ce vendredi au théâtre du Casino d'Enghien-les-Bains. Quant à leur dernier disque, il s'appelle donc Série.
Et notre série à nous continue vendredi. À vendredi Frédéric.
À vendredi.
13h51 sur Inter, suite de notre feuilleton. Une semaine au tournoi des Petits As à Tarbes, meilleur tournoi de tennis du monde pour les moins de 14 ans. On y rencontre les graines de champions français pour beaucoup formés au Pôle France de Poitiers. Parmi eux, le jeune Moïse Kouamé, francilien de Sarcelles, accompagné par sa maman. Témoignage au micro de Fanny Lechevestrier.
On est au bord du cours numéro 8 du tournoi des Petits As avec Suzanne Kouamé, c'est la maman de Moïse. Moïse qui lui est sur le cours.
C'est toujours très sympathique de venir soutenir son enfant, hein. Voir mon fils jouer, mais voir aussi les autres qui viennent de partout le monde. Donc c'est un moment de partage et d'échange, hein. J'avais beaucoup de mal à me détacher de Moïse, c'est mon petit bébé, hein. En plus c'est mon dernier, de mes enfants. J'ai eu besoin d'un vrai travail d'accompagnement pour qu'on m'apprenne à lâcher prise et à me mettre en confiance en me disant « mais Moïse, il sait faire, il est capable de faire ». J'étais très régulièrement au Krebs pour voir si sa chambre était propre, si ses devoirs étaient bien faits. Quand il a 12 sur 20, je ne suis pas contente, je veux savoir pourquoi. Et donc, vraiment, ils m'ont accompagnée à me dire « faites confiance à Moïse ». Mais en même temps, quand on se projette dans le projet qui est le sien, parce que c'est lui qui choisit de vivre cette vie-là, mais on sait qu'à un moment donné, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Moi, des fois, il me surprend parce que je ne le savais pas capable, pas sur le plan tennistique à proprement parler. Mais par exemple, il faut s'occuper soi-même de son linge. Ils sont vraiment responsabilisés. Hein. Et Moïse, je ne le savais pas prêt et capable de faire ces choses-là et de continuer à prendre un plaisir dingue dans le tennis. C'est quand même de tout jeunes enfants à qui on enlève finalement leur côté candide. Parce que,
vous n'avez pas peur qu'on leur vole leur enfance finalement?
Ben oui, c'est clairement ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu qui veut ça. Moïse est conscient de ce qu'il doit donner pour arriver au bout de son projet ou en tout cas essayer de le réaliser. Et il accepte les règles du jeu. Moi, je considère ça comme étant une aventure. C'est le choix de vie de Moïse. Il fait quelque chose qu'il aime beaucoup. Et moi, je l'accompagne là-dedans. J'essaye de veiller à ce qu'il soit heureux. C'est une aventure qui peut s'arrêter d'un jour à l'autre pour X raisons. Et moi, je dis que tant que ça marche, tant qu'ils font ça, tant qu'ils sont heureux et épanouis, pour moi, c'est ça qui compte. Allez, jusqu'au bout. Hein.
Vous
avez fait des sacrifices. Je crois que vous aviez arrêté votre carrière.
Absolument, parce que ça sollicite beaucoup d'accompagnement, hein, même si là, dans le cadre de Moïse, maintenant, la fédération prend quasiment tout en charge. Il faut voir, avoir des activités qui nous permettent malgré tout d'avoir des disponibilités et puis de travailler, parce qu'il faut continuer à faire manger la maison. Hein.
Ils ont gagné, il a le sourire.
Des fois, ça me ressource de la regarder, ça me détend, ça me relâche. Le petit temps que je la vois, il faut que j'en profite. Mais des fois, il me manque quand même. Et voilà. Tous les soirs, je l'appelle. Tout le temps, je raconte ma journée, ce qui s'est passé, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, ce que je dois mettre en place pour le lendemain. Et c'est très important pour nous.
Quand il est souriant, puis quand les victoires vont avec, ça fait que embellir l'histoire, hein.
Feuilleton de Fanny Le Chevestrier, réalisation Lucie Le Marchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire, chronique d'histoire et d'actualité signé Jean Lebrun. Jean, une exposition ouvre au musée Guimet de Paris autour des représentations anciennes du yoga et des yogis.
Les mots yoga et yogi, 1825-1828, sont apparus dans le vocabulaire français quand on y a découvert l'univers du sanskrit. C'est une discipline mentale, corporelle, qui provoque dans les tourbillons de notre conscience un état d'arrêt bienfaisant. Et à l'origine, en Inde, c'est une voie de libération que dessinent à leurs disciples des ascètes, des renonçants.
Et c'est à eux, Jean, qu'est d'abord consacré à l'exposition au musée Guimet.
Nos actions, savez-vous, ont des conséquences. Selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises, elles nous promettent une renaissance dans une autre vie, plus ou moins heureuse. La cèse, donc, offre un moyen de réduire l'enchaînement de ces causalités. Elle s'appuie sur le yoga, tenir des positions corporelles stables. Hériter de toute une sagesse permet de développer la conscience de soi, de se désolidariser de ses affects et de s'abandonner, Marion, à ce qui nous dépasse et nous traverse. Le yoga, en Inde, comme chez nous la littérature mystique, a fait avancer l'autonomie de qui le pratique. Et en conséquence, les yogis vont souvent se sentir comme une instance critique de la société dominante, l'indienne, mais aussi l'occidentale.
Et au XXe siècle, d'un côté, on les voit appeler en Inde à une réforme des comportements corrompus par la colonisation, et de l'autre, à s'imaginer une mission en Occident.
Intéressons-nous à celle-ci. Si les dieux ont constitué une sagesse immémoriale avec l'indépendance de l'Inde qu'il lui faut retrouver, il importe aussi que ce trésor passe les mers. Quelques maîtres ont en la matière une vraie stratégie d'exportation. On peut être des ascètes, des hommes de la soustraction, et en même temps de l'addition des disciples dans le vaste monde. C'est sur les États-Unis qu'ils fixent par priorité leur intérêt. Vous savez, se produit un grand découpage imaginaire entre un Occident technicien et matérialiste et un Orient qui serait tout de gratuité. C'est aux États-Unis, sans doute, que l'esprit de compétition, la dispersion mentale, recouvrirait le plus la conscience de soi. Donc, dès 1920, un premier maître, Yogananda, s'établit à Los Angeles où il trouve un climat favorable. En 1946, son autobiographie d'un yogi commence un parcours de best-seller, mieux de long-seller de la spiritualité. Plus tard, 1969, Satchidananda ouvrira le festival de Woodstock. C'est un ascète d'un nouveau type qui n'hésite pas à porter une montre et à conduire une voiture pour arriver à l'heure à ses enseignements.
Et le yoga, en se généralisant, se délie de ses origines.
Ben oui, certains maîtres yogis finissent par se sentir de plus en plus proches d'autres esprits mystiques, d'autres religions. Tel qui arrive à Chicago au moment d'une exposition universelle, imagine un parlement des religions. Tel autre se sent très proche du Notre Père chrétien. Mais enfin, cependant, la tendance la plus forte n'est pas le rapprochement avec d'autres spiritualités, si tant est que ce mot ait un sens, mais le détachement de la spiritualité.
Et d'une discipline religieuse, le yoga devient de plus en plus une promesse de bien-être. Ce sera le thème du colloque qui accompagnera début mars l'exposition à Guimet.
Le souci du corps pour lui-même occupe de plus en plus d'espace dans certains yogas. Il faut toujours dire le mot au pluriel, hein. Au point de devenir le lieu d'une performance qui rétablit l'esprit de compétition. Dans le Bikram yoga, mais est-ce que c'est encore du yoga, par exemple? Vous répétez 26 positions jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire, puisque vous vous tenez dans une pièce surchauffée à 40 degrés. Alors c'est un yoga hot, avec un vocabulaire assez éloigné du sanskrit. Stress, douche...
Et où sont les yogis dans cette nouvelle configuration?
L'écrivain Arthur Koestler, naguère, au tout début de la vogue du yoga, opposait le maître yogi, levier de l'émancipation de soi, et le commissaire, délégué d'un pouvoir économique ou politique aliénant. Alors maintenant, le yoga s'est professionnalisé, plus de maîtres, des professeurs, l'extension du domaine des professeurs. D'un certain point de vue, c'est rassurant, parce que la sortie de la spiritualité, c'est aussi la sortie de la marginalité.
Jean Lebrun, qui provoque lui aussi des tourbillons dans notre conscience sur cette exposition au Musée des Arts Asiatiques jusqu'au 2 mai prochain. Dans quelques minutes, la Terre au carré avec Mathieu Vidard et Camille Cronier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous continuez votre balade en montagne, aujourd'hui un petit tour en forêt.
Voilà, étape 3 au programme, donc c'est randonnée sur les traces des bouquetins.
Raquette au pied. À tout de suite.